Bonjour Isabelle Job-Basile.
Bonjour.
Directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour.
Président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Erwan Tison, bonjour Erwan.
Bonjour Nicolas Dose.
Directeur des études de l'Institut Sapiens, qui a co-écrit un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. 0,2% de croissance, l'INSEE attendait 0, c'est donc mieux que prévu. Le consensus 0,1, c'est mieux que prévu. La Banque de France 0,2, c'est comme prévu. Simplement l'investisseur est de retour, le consommateur est de retour. Un peu moins la catastrophe dans la construction. On a 0,5 d'acquis fin mars. C'est solide, dit Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Petit ?
Ça dépend, enfin.
Ah bah, je sais pas.
Solide par rapport au reste du monde, c'est pas terrible. Alors moi j'étais au-dessus du consensus hein, pour la zone euro, je trouvais que les prévisions étaient trop négatives, j'étais à 0,7 et le consensus...
0,7 quoi ?
En moyenne annuelle sur la zone euro.
Ah, moyenne annuelle.
La France, elle est là-dedans, enfin voilà, elle est dans la zone euro.
Ah, là je suis sur un trimestre, hein, mais...
Mais après, tu vas voir que les prévisions vont être automatiquement relevées là, très prochainement, parce que les gens étaient surpris par le chiffre du premier trimestre. Et je trouvais que la zone euro était capable de faire du 1% annualisé, au cours des prochains trimestres, qui fait en moyenne annuelle sur la zone euro 0,7, alors que le consensus était à 0,4, maintenant il est à 0,5. On se bat sur quelques dixièmes, mais mine de rien, c'est pas totalement... Parce que l'acquis était extrêmement défavorable en début d'année.
Extrêmement défavorable.
On avait eu un quatrième trimestre négatif. Mais après, pourquoi ça va un peu mieux? Parce que les conditions financières, macro-financières s'améliorent depuis octobre. Les conditions de crédit aussi s'améliorent.
Ah oui.
Donc, sur l'investissement logement, c'est assez important. La demande mondiale évolue quand même un peu plus favorablement que ce qui était... anticipé. Il y a un redressement manufacturier mondial aujourd'hui, qu'on voit dans la tech en Asie de l'Est, mais qu'on voit aussi ailleurs. La situation n'est pas catastrophique.
Eh ben voilà, vous dites ça.
En plus, il y a la désinflation.
Vous dites ça avec une énorme regret.
Les États-Unis vont faire 2,7.
Mais les États-Unis vont faire 2,7.
Oui. Les États-Unis vont faire 2,7.
Oui, d'accord. Bah, oui, mais l'Allemagne fera peut-être 0,3 là où elle pensait 0,2.
Si. L'Allemagne, c'est un gros loser depuis presque 10 ans. Ça, c'est ça qu'on n'a pas encore bien intégré. L'Allemagne sous-performe la zone euro depuis 2015, pas depuis la semaine dernière.
C'est l'Allemagne qui tire l'excédent de la balance. Des paiements courants.
Ça nous aide pour le spread, pour la gestion des déficits jumeaux, mais sinon, pour la croissance, ça fait longtemps qu'elle est en difficulté. Par contre, il y a un autre point, c'est la désinflation. La désinflation est forte. Et elle va se poursuivre, à mon avis.
L'Allemagne s'attend à moins de 2,4. Et nous, on a fait quoi, Isabelle ?
2,2. On est redescendu à 2,2.
Et en fin d'année, en zone euro, parce qu'il y a des pays qui dépassent un peu, on sera à 2.
Oui.
C'est très bien. Surtout, et ça va dans le sens de ce qui se passe dans le monde. Même les États-Unis seront moins de 3, ils seront entre 2,5 et 3, alors qu'ils font 2,7 de croissance. Malgré une croissance qui accélère aux États-Unis, ils sont quand même en désinflation. Ce qui veut dire que le mouvement de désinflation est, contrairement à ce qu'on raconte souvent quand on a des chiffres un peu décevants, est puissant.
Mais vous rendez compte que depuis 5 minutes, on vient d'annoncer presque avec déception dans la voix des bonnes nouvelles. On annonce des bonnes nouvelles, Jean-Pierre. C'est mieux que prévu, la désinflation est là, ça frémit, tout ça.
Le problème de l'Europe, Nico, tu sais très bien, c'est des problèmes structurels.
Ah non, mais j'ai pas dit qu'un 3 mois avait réglé les problèmes structurels de l'Europe.
Ah non, ça, non.
Bon, c'est pas champagne, Isabelle, mais...
Non, c'est toujours mieux que zéro, que rien.
Petite
anecdote, c'est vrai qu'il y a cette petite bataille de manière maintenant assez récurrente entre l'INSEE et la Banque de France sur les prévisions trimestrielles. Donc, effectivement, l'INSEE était à zéro et la Banque de France à 0,2.
Elle
avait raison. Et j'aurais tendance à dire que depuis quelque temps, c'est plutôt la Banque de France qui a raison sur le sujet. Bon, enfin, voilà, c'est je rejoins sur l'idée de ces désinflations puissantes, puisqu'on regarde ce qui vraiment tire la croissance sur ce premier trimestre, c'est la consommation, c'est le retour du consommateur.
Plus 0,5 sur l'investissement.
Sur l'investissement, mais enfin vraiment ce qui avait été très en retrait sur les trimestres précédents, pas depuis le quatrième trimestre, mais c'est vraiment ce retour du consommateur.
Brillant au quatrième trimestre 2023, on était à zéro, je crois.
Si, on était légèrement en positif.
Légèrement, oui. Non, mais effectivement.
Enfin, en tout cas, c'était un peu volatile. Ouais. Mais enfin, voilà, le retour du consommateur, des inflations plus des salaires qui rattrapent progressivement l'inflation. Donc, tout ça fait qu'il y a du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, vous avez les mesures de pouvoir d'achat. On voit bien que ça augmente sur le premier trimestre et ça soutient la consommation. Et ça va probablement rester le moteur sur l'année 2024. Retour d'investissement un peu plus surprenant. C'est vrai qu'on avait moins ça dans nos prévisions, compte tenu des effets passés du durcissement monétaire. On pensait que ça allait encore peser sur l'investissement. Tout ça, de ce point de vue, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si, pour le coup, sur l'investissement logement, c'est toujours très négatif. Ouais. Hein. On a encore les effets passés
du... C'est un cycle un peu lent, hein, voilà. Le logement. Mais...
Et ce que j'ai noté aussi, par contre, parce que maintenant, c'est un peu récurrent, c'est le taux d'épargne qui reste encore très élevé, puisqu'il a 17,6. Donc, on est encore au-delà. 17,6. Donc, on est encore au-delà de la moyenne de long terme.
C'est 15, hein, la moyenne de long terme.
Ouais, on est plutôt sur 15, et ouais. Ça fait depuis quelques trimestres où on est sur plus de 17% de revenus épargnés.
Manuel, le chiffre disait ce matin, c'est une hirondelle, ce chiffre. Il y a une ambiance printemps à vous écouter.
Oui, il faut prendre ce qu'il y a à prendre.
Hein. Bon, globalement, ça veut dire que ça y est, on appuie sur le 6 juin sur les taux directeurs et on entame le mouvement.
Ah, bah, de toute façon, ça
Europe.
A été dit. Enfin,
oui,
très clair.
Ça a été dit,
enfin,
mais je pense que
là, il n'y a vraiment aucun doute sur le fait.
Il n'y a plus aucun doute, ça y est, c'est là, on va donner les signaux avant la Fed.
Enfin, la question va se poser de savoir combien la BCE va pouvoir faire de baisse de taux d'ici la fin de l'année si la Fed ne bouge pas.
Si
la Fed ne bouge pas, parce qu'il y a quand même une croissance qui est très résiliente aux États-Unis et une inflation qui est aussi un petit peu plus tenace, même s'il y a de la désinflation. Aujourd'hui, les marchés commencent à se poser la question s'il y aura des baisses de taux de la Fed sur la deuxième partie de l'année.
Ça veut dire que
si elle bouge pas, le problème, c'est ensuite les différentiels de taux et comment se comporte l'euro sur la période.
C'est vrai, mais l'euro-dollar a bien réagi aux modifications d'anticipation de taux directeurs.
D'accord, jusqu'à présent.
D'un côté, en début d'année, on anticipait 175 points de base de baisse des taux directeurs de la Fed.
Ça, c'est plus d'actualité.
Et à peine 100 bips pour la BCE. Les 100 bips sont à peu près restés. Et par contre, on est passé de 175, même pas 50. Là, on est à 30-40.
Et
l'euro-dollar est resté dans un range entre 1,06 et 1,09. Donc, il a assez bien résisté à ça.
Ce que vous me dites, c'est que si la BCE va donner le signal, probablement 25 points de base le 6 juin, mais que si la Fed ne bouge pas, c'est peut-être le premier et le dernier de l'année.
Mais je pense que la question se posera côté de la BCE.
Tout
ça a été dit.
Bon, oui, alors j'ai un auditeur.
Champagne, mais avec modération.
Voilà. Oui, bon.
Champomis.
Des petites bulles.
Crément de Bourgogne, d'accord. Il y a Jean-Marc qui me dit ce ne sont pas des bonnes nouvelles, ce sont des chiffres bidons. Chaque fois qu'on parle du chômage, on me dit que les chiffres sont faux. Que c'est les radiations, tout ça. Là, on donne les chiffres de l'INSEE, on me dit que les chiffres sont faux.
S'il a les moyens
mais
de.
Non, mais même sur le chômage, a priori, c'était.
Pourquoi pas, hein, mais s'il a les moyens de le prouver.
Il
faut faire la compta.
Non, mais c'est ce genre de remarque est assez catastrophique.
Ça sert à rien.
Parce que là, ça sert à rien déjà d'une part, et puis on parle d'organismes qui sont extrêmement sérieux, qui font.
Et assez indépendants.
Mondial en plus. Qu'on ne soit pas d'accord avec la politique du gouvernement ou quoi que ce soit, là, c'est une nouvelle collective, c'est pas insatisfaisant.
On peut dire que la nouvelle est en faveur de Bruno Le Maire quand les mêmes instituts vous disent qu'on n'a pas fait 4,9 de déficit, mais 5,5. Ah oui. C'est pas tellement une bonne nouvelle pour Bruno Le Maire.
Il faut arrêter de tout politiser les chiffres de la croissance, les chiffres de l'emploi, c'est des vies qui s'améliorent derrière aussi. Ouais. Enfin, c'est de l'amélioration sociale, c'est de la création de valeur, c'est de l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc il faut arrêter de réfléchir en termes de rolling IFOP et de code de popularité de nos différents élus.
Puis on a une vraie culture statistique en France.
En plus, on est les meilleurs.
Une des meilleures du monde. Taper sur des.
Non, mais c'est récurrent. À chaque fois que j'ai annoncé qu'on créait des emplois et que le taux de chômage reculait, on me disait que je mentais parce qu'en fait, c'était les radiations qui augmentaient sans qu'on le disent. C'est toujours ce genre de truc. Là. Ouais. On a eu récemment le bilan 2023 de France Travail qui prouve qu'on est sur des chiffres complètement stables.
Et après, même à la rigueur, on devrait être même mieux, puisque d'après ce qu'il y a eu des études de l'OFCE sur le sujet, comme quoi l'apprentissage n'est pas bien pris en compte, etc. Il y a quelques fois, il peut y avoir quelques trous dans la raquette, surtout quand c'est à base d'enquête ménage, et on peut avoir.
On regarde le taux d'emploi dans ces cas-là.
Exactement.
Le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé depuis les années 70.
Je pense que c'est la bonne mesure à regarder.
Elle est bien meilleure que le taux de chômage.
Isabelle fait référence effectivement à un chiffre au FCE. Xavier Rago était là hier, mais je voulais pas qu'on en parle en 30 secondes parce que je m'étais dit, allez, on en dit un mot s'il reste du temps. Il considère qu'on a mal compté les apprentis et que ça nous amènerait plutôt à un taux de chômage. Ça sacrée différence, 7,1 au lieu de 7,5.
7,5, quoi. 4 dixièmes d'écart.
Je sais pas, ce chiffre m'amène à tirer le fil de la presse Fitch Standard & Poor's. Vous avez vécu comment la séquence qui veut se lancer là-dessus On n'a pas été dégradé, donc.
Non, bah oui. De toute façon.
On fait 0,2, bah oui. On n'a pas été dégradé, bah oui.
Mais non, mais c'est pas vraiment.
Oh, mince.
Non, mais qui peut. Enfin, d'abord, il y a un problème sur les agences de rating. Sur leur crédibilité propre. Ouais, hein. Franchement, il y aura un travail à faire là-dessus. Hein.
Et sur des... Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre la notation souveraine à côté des mauvais souvenirs des subprimes sur de la titrisation privée. Quoi.
Non, mais même au niveau de la crise des dettes souveraines. Hein.
Même au niveau de la dette souveraine, il y a un problème.
Procyclique dans la baisse.
Alors, allons-y.
Non, mais disons allons-y. Plus simplement pourquoi, indépendamment des agences de rating, la France est relativement protégée. Ouais. C'est surtout ça, en fait, qui compte. Quelle que soit la décision des agences de rating, même si ça influe.
Je vous la fais, la réponse.
Bah oui, tu l'as fait, parce que la France est un gros pays systémique, 20% du PIB de la zone euro. Donc si on attaque, évidemment, il va y avoir une lame de fond sur l'ensemble des pays. Ensuite,
c'est une grosse base taxable aussi.
C'est grosse base taxable.
C'est ce qui est marqué dans les. Il y a une grosse base taxable. Donc, si jamais il y a un problème, notamment avec les finances publiques, l'État pourra de toute façon lever des impôts supplémentaires.
Ben, le taux de prélèvement obligatoire est élevé.
Quand
même,
bien sûr, mais c'est.
Non, oui, mais ça n'empêche pas en cas de coup dur de faire un choix politique immédiat. Oui. Je vous rappelle qu'on a un article de la loi Sapin 2, par exemple, comme ça.
Dans leur conclusion, c'est ce qu'ils disent. La mairie de Paris, il n'y a pas longtemps, a eu une super note. Alors que bon, là, quand on regarde quelques comptes en termes de comptabilité, on se rend compte que la mairie de Paris n'est pas super bien gérée d'un point de vue.
Ah non.
C'est pas le premier mot qui viendrait.
C'est gentiment dire.
C'est pas le premier mot qui viendrait.
Je rappelle que la dette est passée de 1 à 7 milliards d'euros sous Hidalgo.
C'est le printemps, Nicolas.
Oui, voilà.
Mais et je rappelle qu'elle n'a pas été dégradée. Au contraire, elle a même eu une très bonne note. C'était au mois de mars dernier.
J'ai
et
zappé.
La dernière ligne, c'était pourquoi est-ce qu'on ne dégrade pas? Parce que 30% du PIB français se fait à Paris et ses environnements. Et les gens les plus riches sont à Paris. Donc ils pourront être mis à contribution.
Et ils ont été mis en contribution. Doublement.
Ah non, mais justement.
Non, pas doublement, mais.
Ça a été dit, on a augmenté de 60% la taxe foncière, il n'y a pas eu de râle, en gros, il n'y a pas eu d'énervement de la part des contribuables. Donc on pourra faire beaucoup plus. Donc la note est très bien, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter de la
c'est
la
juste,
note.
Non, mais c'est juste ça la vérité.
C'est ça aussi les notes. C'est pas un bulletin note sur la santé économique.
Isabelle, mais je reviendrai sur ce que me dit quand même Jean-Pierre sur la fiabilité, parce que globalement, Jean-Pierre me dit ils n'osent pas toucher à la note de la France parce qu'on veut éviter
la
ramagée.
Ça pose problème, ça pose
problème. Oui, c'est un peu gênant.
Alors moi, je dirais que si on mesure à l'aune du risque de défaut, bien évidemment qu'il n'y a pas de risque de défaut.
Voilà, c'est quand même le sujet.
Mais il n'y en a pas plus en Italie, il n'y en a pas plus en Allemagne, à partir du moment où on pense que s'il y a un problème, effectivement, la Banque Centrale Européenne va jouer son rôle de prêteur en dernier ressort.
Le monde le sait, Isabelle.
Et donc, tout ça, on le mettrait... Mais on devrait avoir les mêmes notations à ce moment-là, si on regarde à l'aune de risque de défaut. Donc, il y a quand même l'idée de mesurer un peu la qualité de signature et en termes relatifs. Et ça, c'est sur la base, à mon avis, d'un certain nombre de métriques. Et ces métriques, elles sont mauvaises pour la France. Et il aurait été tout à fait légitime de dégrader la France sur la base, simplement, ça ne veut pas dire que la France a un risque de défaut imminent ou plus élevé, etc. Mais simplement une qualité de signature qui est un petit peu différente et qui montre le risque qu'on peut, à un moment donné, avoir un peu des taux qui réagissent à un certain nombre d'informations en France. Et si les taux montent, la valeur des obligations baisse. Et donc l'investisseur, il a aussi un risque de ce point de vue-là. Et donc, si on regarde ça, j'aurais eu tendance à dire qu'il aurait fallu plutôt dégrader en signal, en termes de qualité relative de la signature française, compte tenu des métriques qui se sont dégradées et qui sont plus dégradées.
Un œil clinique devait, en théorie, conduire à une dégradation de notes.
Mais ça n'aurait pas fait bouger énormément le marché.
Non,
ça aurait été symbolique.
Marginalement.
Si on était passé de double A2 à double A3, on restait dans les 4 premières catégories de Moody's, on passait de 17 à 16 sur 20. Enfin, bon.
Non, mais,
donc, oui,
non, mais c'est dans les fondamentaux politiques, il y a, indépendamment de sa force, etc., c'est un pays majeur dans ce qu'on a appelé là, depuis très longtemps la construction européenne. Tous les gouvernements ont toujours été pro-européens. Il n'y a jamais eu, contrairement à l'Europe du Sud, voire certains pays d'Europe du Nord, il y a toujours un discours pro-construction européenne, même s'il n'y a rien derrière. Le mythe du couple franco-allemand, tout ça joue en faveur de la France. Et puis sur le plan de son statut macro-financier, c'est une dette quand même très profonde.
Oui, hein, voilà. Appréciée par les marchés. Ouais.
Si on vend la France, il faut savoir où on va. Hein. Et si on va, le seul truc comparable, c'est soit l'Allemagne, malheureusement on gagne rien, soit c'est l'Italie, mais il y a un petit risque quand même. Ouais. Voilà.
Ouais.
Alors, les gens me disent, avec Marine Le Pen, ça va changer, mais ça ne changera rien. Ça fera du Meloni. En gros, voilà.
Ouais, et en même,
pour
terminer sur le sujet, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que cette indiscipline budgétaire récurrente, ça quand même démonétise la parole française.
Totalement.
Oui,
au niveau de l'Europe. On fait des beaux discours.
Hein, oui, mais les discours sont clairvoyants, mais ça fait 50 ans, on vient de signer le 50e budget dans le rouge.
Il y a un très bon article de vos confrères de l'Opinion, d'ailleurs, sur ce sujet-là, qui explique que la France rentrera en procédure de déficit excessif dans les prochains jours, à cause notamment des nouvelles règles.
Ça fait rigoler, Juan.
Non, mais.
De 2009 à 2019, on a été en procédure, personne ne s'en souvient.
Oui, mais bien sûr, les Espagnols et les Portugais l'ont été juste au moment du Brexit.
Oui, mais l'Allemagne ne l'oublie pas.
Alors, ça, c'est justement la suite de l'article, c'est qu'ils expliquent que la plupart des autres pays européens, notamment ce qu'on appelle les frugaux, mettent la pression sur la Commission européenne pour que justement il y ait des vraies sanctions et qu'en tout cas on incite fortement la France à respecter certains de ses engagements. Et c'est là où moi je pense que les agences de notation, mais je pense qu'il faut leur donner aucun crédit, que ce soit avant, que ce soit maintenant, que ce soit après. La plupart en plus des investisseurs qui achètent de la dette, ils ont des moyens beaucoup plus importants que la plupart de ces agences-là pour mesurer elles-mêmes leurs propres investissements. Ils n'ont pas besoin d'avoir les trois stagiaires de chez caricature, mais qui disent oui c'est très bien et qui en plus appliquent une grille de lecture à 180 entrées et basta. Par contre, là où c'est embêtant d'un point de vue politique, c'est que on va avoir donc du coup quelque part le gouvernement qui se dit il y a eu un dérapage, mais regardez, la note est bonne, le bulletin de note est bon. Donc ça pourrait y avoir une tentation en plus avec cette période électorale qui s'ouvre de se dire bon en fait je vais pas bouger aussi fortement que ce que j'ai fait avant. Et c'est là où en fait on parle de l'écume des jours, ce signal qui n'est qu'un petit écume, qui n'est qu'une petite bulle, et ben on pourrait se dire du coup je me raccroche à ça, je n'ai pas besoin de m'attaquer justement au fond profond. Et c'est là où on peut justement peut-être s'appuyer sur les autres pays européens pour forcer quelque part la France en leur disant la France veut avoir une parole qui parle, qui porte. Il y a énormément de réformes structurelles qui arrivent dans les 10 prochaines années en sein de l'Union européenne. Et ben le président Macron il y a pas longtemps a annoncé même qu'il voulait changer le statut de la BCE. Tous ces changements là, il y aura besoin d'une certaine crédibilité pour les faire. Tu ne peux pas la faire parce que tu ne l'as pas aujourd'hui. Ça c'est beaucoup plus intéressant qu'un bulletin de notes épisodique.
En fait, Jean-Pierre, vous me dites que vous n'avez pas confiance dans ce que disent les agences. Enfin que peu importe, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, ça change.
Oui, mais elles font quand même la météo sur
Météo. Il y a Standard & Poor's qui est la plus écoutée. On verra fin mai.
Oui, mais de toute façon, il y aura des petites mesures qui vont être prises après les élections européennes. Voilà, c'est tout. On va trouver les 10 milliards.
On va trouver les 10 nouveaux milliards qui s'ajoutent aux 10 premiers.
Les 10 ou les 20, si tu veux.
C'est 10 plus 10, là, aujourd'hui.
Oui, ça fait 20.
Après, il faut suivre la trajectoire.
Quand je regarde les 10 nouveaux milliards, il y en a 5 qui, normalement, sont à nouveau des gels de crédit de réserve. Je suis un peu surpris qu'on ait des tel crédit de réserve. Normalement, le crédit de réserve, c'est la poire pour la soif en cas de coup dur. On en a déjà taillé dans les 10 premiers milliards par décret, on en retrouve 5 là. Waouh! Il y en a 2,5 qui doivent venir de la réécriture de la. J'adore l'acronyme, la CRIM. C'est la contribution sur la rente inframarginale. Très bon.
C'est beau ça.
Parce qu'il y avait vraiment un manque à gagner qui a été assez important. C'était 3 milliards de prévus, on a fait que 300 millions.
Plus, mais on est sous le milliard. Et là, l'idée, c'est que la CRIM. C'est ce qu'on va chercher chez les énergéticiens ou sur les sociétés d'autoroutes. Il faudrait que ça rapporte 2 milliards d'euros. Et puis on dit aux collectivités, tu vas me trouver 2 milliards et demi. Pof.
Ouais, puis on va lutter contre la fraude aussi.
Ah non, mais ça, non, ils nous ont.
Ça marche toujours, ça.
Ils nous ont pas fait le coup, quand même, Jean-Pierre. Le gars qui te fait un programme à 150 milliards, vous allez les trouver où? Dans la lutte contre la fraude.
Il y a une annonce sur l'intensification des contrôles, notamment à Pôle emploi, France Travail. Oui. Ça va un peu dans ce sens-là. On y a eu un petit peu droit quand même ces derniers.
Oui, mais en fait, on en a parlé avec François Eccal, qui est quand même, lui, sérieux sur le sujet. Il vous explique que, on est arrivé à un rythme de croisière sur la fraude, la fraude fiscale. On est entre 10 et 11 par an. On ne va pas faire 18 demain. La fraude sociale, on flirte les 2 milliards. On ne va pas faire 8, 10 demain. Alors ceux qui vous disent qu'ils vont aller chercher les 80 soi-disant milliards de fraude.
Oula.
C'est le chiffre du syndicat des impôts qui a été donné en pâture il y a peut-être 15 ans, qui s'est inscrit dans la tête des gens réalité. La fraude fiscale et sociale, c'est entre 80 et 100. Personne n'en a
et
vraiment...
Et comme c'est une fraude par nature, on ne sait pas.
Non, et puis ça a été un peu plus sérieusement chiffré par la Cour des comptes.
C'est pas du tout les ordres de grandeur, bien sûr.
On doit être sur les 12-15 milliards en fraude sociale et en fiscale, dans les 25-30 peut-être, mais on n'est pas à 100. Bon, 1 minute 30, c'est pas long pour démarrer un sujet. Non, c'est pas long. Alors, juste une question. Parce que moi, hier, ils avaient tendance, mes invités, à dire qu'il fallait avoir un peu d'honnêteté et abandonner 3% en 2027. On arrête de dire qu'on est sous 3% en 2027.
De toute façon, tout le monde s'en fiche, puisque...
Ah,
fondamentalement.
Mais fort aujourd'hui.
Non, mais vous n'avez pas un petit remontant pour
émission sponsorisée par Jacques. Ouais, c'est
ça. Pas besoin de remontant, c'est la réalité. C'est évident que. Mais quelles que soient les hypothèses que tu prennes, faut prendre les variables clés. Hein. C'est-à-dire le niveau de dette publique actuelle, on est à 111, 112 à peu près. Les taux d'intérêt apparents nominaux de la dette qui vont arriver compte tenu des taux actuels, des prévisions qu'on peut faire, etc. Bon, la croissance nominale tendancielle, et puis le solde primaire. Bon, le solde primaire, on a un peu de marge, parce que historiquement, quand même, sur les 30 dernières années, le solde primaire négatif, c'est moins 1,5.
Oui.
L'année dernière, on était à moins 3,7, donc on a fait fort.
On a quand même un peu.
Voilà, on peut améliorer le truc. Hein,
mais ça s'est amélioré, Isabelle. Voilà. On va rester sur la thématique du printemps.
On aura quand même une croissance nominale. Allez, on peut espérer 3, quand même, à peu près, de croissance nominale.
Croissance nominale, croissance plus inflation. Hein.
Et le taux d'intérêt apparent, il ne faut pas le mettre trop haut, hein, parce que les gens ont tendance à prendre les taux de marché et se dire ah bah oui, les taux de marché montent. Et, non, non, d'abord, les taux baissent depuis octobre déjà, et primo.
Il faut 8 ans pour renouveler.
Voilà, et puis en plus, il y a la gestion de la maturité, parce que la maturité est très longue aujourd'hui.
8 ans, je crois.
8 ans et demi, oui, donc voilà. Donc on peut jouer là-dessus, c'est pas la cata non plus, mais c'est.
Mais c'est pas 3%.
C'est extraordinairement médiocre, on n'arrive pas à 3%. Puis surtout, ça sert à rien d'arriver à 3%. De se dire, il faut arriver à 3% pour 3%, c'est pas efficace, parce qu'il s'agit pas non plus de casser la croissance, donc voilà.
Ah ben c'est exact, encore, je vais le citer tous les jours, François Eckhall. François Eckhall, il. C'est pas un odieux socialiste keynésien. Il dit, là, dans la perte de tous les éléments que vous décrivez, il faut arrêter d'avoir un objectif à 3%, c'est pas le sujet.
De toute façon, ces normes-là ne veulent rien dire, de toute façon, les 3 et les 60.
Oui, il n'y a pas de.
D'abord, la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais été.
On va se remonter le moral pendant la pub. On va revenir avec le sourire. Alors, après, qu'est-ce que je vous propose? Le PER. Visiblement, les Français voulaient pas de la réforme des retraites, mais ils ont tous compris que la répartition va dans le mur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se fait de la bonne retraite par capi individuelle. 10 millions de Français ont été séduits par le PER. Il n'y a pas que des PER individuels, il y a des PER d'entreprise là-dedans. On est dépassé les 100 milliards d'encours, nous dit Bercy. Et puis on regardera l'histoire de l'apprentissage. On a mis beaucoup d'argent au début. Oui, il fallait le faire, mais est-ce qu'il faut continuer compte tenu de... Parce que ça coûte très cher. Hein. On est sur plus de 20 milliards d'euros par an maintenant. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.